tutti et à tous. Que la grâce et la paix de Jésus soient sur nous. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit nous dirige? Je vous donnais le titre du message et vous comprenez pourquoi je vous ai dit ça. Le titre du message, c'est « Si tu veux grandir ». C'est exactement ce qu'on vient de chanter, n'est-ce pas? Lis la Bible et prie. Mais il y a d'autres choses que la Bible nous dit. Et toutes ces choses-là, nous devons les puiser dans la parole. Car il nous est dit que la parole est la vérité. Et voilà pourquoi ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible dans le livre des Actes. Qui relate les débuts de l'Église. Et l'essor qu'elle a eu au commencement, des peu qu'ils étaient, 120, ils sont devenus des milliers, des milliards. Il y a quelqu'un qui, en parlant des chrétiens, il m'a dit, mais comment tous les chrétiens, ils pourront prendre place ici-bas sur cette terre lorsque le Seigneur Jésus va revenir dans le royaume, dans l'état éternel? Mais c'est vrai, on est nombreux, n'est-ce pas? Mais tous ces gens-là, ils ont une chose qu'ils ne regardent pas, qu'ils ne lisent pas, c'est la Bible. Parce que la Bible nous dit que dans l'état éternel, il n'y aura plus la mer. Et vous savez que la mer, il occupe pas mal d'espace. Donc le Seigneur, il va tous nous réunir. Même si nous sommes nombreux, il y aura toute la place. Et cet essor de l'Église au commencement, elle n'est pas agréable à notre ennemi, à Satan. Pourquoi elle n'est pas agréable? Il n'est pas content lorsque quelqu'un quitte le monde. Voilà pourquoi j'ai donné ce titre, Si tu veux grandir. Et cela, il est utile pour nous qui sommes des chrétiens avancés, et c'est aussi utile pour tous ceux qui vont se faire baptiser ou qui commencent leur vie. Car si on veut grandir, il y a des choses à faire que Dieu nous dit dans sa parole. Et ce matin, je vais voir trois stratagèmes que notre adversaire Satan, il utilise pour empêcher que l'œuvre de Dieu puisse s'épanouir, il puisse grandir. Et ces œuvres-là, il les a commencées avec la première église et il continue aujourd'hui. Car Satan, il est ce qu'il est, il fait toujours les mêmes choses. Il ne change pas. Donc ce qu'il a utilisé avec la première église, il l'utilise aujourd'hui aussi. Si on veut grandir, la parole de Dieu, il nous montre tout ce que Satan, il a fait, il fait et il fera pour que ses enfants, ils puissent sortir vainqueurs. Voilà pourquoi le livre des Actes. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on voit le commencement de cette église, de cette œuvre de Dieu qu'il a commencé à la Pentecôte. Et pour cela, regardons Acte 4, chapitre 4, le verset 1 à 3. Je veux lire. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survirent le prêtre, le commandant des gardes du temple et les Sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà les soirs, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Chapitre 5, verset 40. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et le relâchèrent. Voilà, au commencement, l'Église, à la Pentecôte, il y a eu un essor terrible. Mais vous savez, lorsque l'Esprit agit, la tempête arrive. Et cette tempête, elle a été causée par notre ennemi. On voit ici qu'on les arrête, on les interdit de prêcher dans le nom de Jésus, ils le mettent en prison. La première stratégie de Satan, c'est exactement, son but, c'est de détruire l'Église. Et la stratégie de Satan, c'est la force, la persécution, l'oppression, l'intimidation. L'intimidation. Et toutes ces choses-là, ils mènent où ? À la peur. À la peur. Ils voulaient empêcher les gens de se tourner, d'écouter la parole de Dieu. Et par la force, il est intervenu pour empêcher toutes ces choses-là. Et Satan, il n'a pas changé de stratégie aujourd'hui. Car lorsqu'on annonce la parole de Dieu, il intervient de suite pour qu'il y ait opposition, pour qu'il y ait intimidation envers ceux qui ils voudraient se tourner vers le Seigneur. Et ils mettent dans leur cœur la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver si je deviens chrétien? Je crois que j'y suis passé et vous y êtes passé et ils y passeront encore à tous ceux qui voudront se tourner vers le Seigneur. Et Satan, alors quelle est la parade pour combattre cette force et cette peur que Satan il met devant notre chemin? Qu'est-ce que c'est qui va empêcher Satan de nous amener loin du Seigneur par cette peur, par cette force? Dans Actes, toujours, chapitre 4, verset 19, il nous est dit, Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous plutôt que Dieu? Jugez-en vous-même. » Actes 5, 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Voilà, Satan, il utilise la force, la peur pour empêcher que nous puissions parler de Jésus-Christ. Et les apôtres là, ils étaient là. Ne parlez pas aux gens de Jésus-Christ. Mais la réponse des apôtres, et c'est là la parade pour eux et pour nous. Alors elle dit, quelle est la parade? Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéir au Dieu plutôt qu'aux hommes. Et c'est ça que le Seigneur, dans les psaumes 46, il nous a dit, « Je me confie en Dieu, je ne crains rien. » Si on se confie en Dieu, que peuvent me faire les hommes? Rien. Psaume 27, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. » Voilà, en opposition à cette peur et à cette force, l'obéissance à Dieu. C'est ça ce qui compte le plus. Faut-il obéir à tous ceux qui nous disent les hommes dans ce monde, ou faut-il obéir à Dieu? C'est ça la réponse, la parade à Satan. Hein? Et aussi dans chapitre 5 encore, il nous est dit, versets 40 et 41, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et leur relâchèrent. Les apôtres quittèrent les Sanhédrins, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Ils étaient dans la joie, et ils étaient dans la joie parce qu'ils étaient jugés dignes de souffrir pour Jésus-Christ. Vous savez combien de chrétiens il y a aujourd'hui qui sont maltraités, persécutés, et pourtant, ils continuent, malgré l'opposition. Ici, en France, on est dans un pays libre, n'est-ce pas? On peut aller où on veut. La parole de Dieu, elle est prêchée, Et on peut aller dans les églises, dans les endroits où la parole est prêchée. Et c'est ça qui, des fois, m'étonne beaucoup. On n'y va pas. Il y a des gens qui risquent leur vie. Et pourtant, ils y vont. Mais nous, plus on a des libertés et plus on se sent libre. Les apôtres et des frères et sœurs qui sont persécutés, lorsqu'ils vont pour lire la Bible, pour prier, pour écouter les messages, ils risquent leur vie. Voilà pourquoi la première parade contre cette stratégie de Satan, qui n'a pas changé, c'est dire « je dois obéir à Dieu ». Pas à ce que les hommes le disent ou ils font. Hein? L'ennemi est là pour nous faire peur, car il utilise sa force. Mais, comme il est dit ce verset, « si Christ est en nous, qui sera contre nous ?» Tertullien, c'est au deuxième siècle après Jésus-Christ. C'était un chrétien. Hein? Il l'avait arrêté pour qu'il puisse abjurer. Il a dit, oh, tu abjures, ou sinon on va te tuer. Voilà la réponse qu'il a dit. Il a dit, torturez-moi ou tuez-moi, mais sachez que chaque fois que vous le faites, nous nous multiplions, car le sang des chrétiens est une sémence. Est une sémence. Et c'est vrai que l'Église n'a jamais grandi lorsqu'il y a eu une persécution. Parce que la persécution, il a dispersé les chrétiens et ils se sont répandus partout. Et c'est ainsi qu'ils ont apporté la bonne nouvelle à toute chose, à toute personne. Que le Seigneur vraiment nous aide à faire tout ça. Et oh, oui, la peur peut nous empêcher même de devenir chrétien dans nos familles. Ça arrive. Et si on devient chrétien, on est rejeté. Mais le Seigneur, il dit, n'aie aucune peur. Je suis avec toi. Mais il faut avoir cette conviction et aussi il faut croire à ce que Dieu il nous dit. Je crois en Dieu, mais si on n'écoute pas ce qu'il nous dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà la première stratégie de Satan. La deuxième, on la trouve aussi dans Acte 4, toujours. Et encore, là, on voit que l'ennemi, il utilise ces choses pour saper la vérité, pour casser, comme il a dit les frères, l'amour qu'on doit avoir entre nous et aussi l'intégrité des croyants. Il fait tout. Regardez chapitre 4, le verset 32 et 36. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Ici, on voit qu'ils pratiquaient l'amour tous ensemble. Ils partageaient. S'il y avait des gens qui étaient dans les besoins, ils apportaient ce dont ils avaient besoin. Donc ils étaient unis dans la vérité et dans l'amour. Et dans cette union, on voit que les apôtres, ils propageaient cette bonne nouvelle. Mais encore une fois, regardez aussi dans Acte 5, c'est une histoire qu'on connaît très bien. C'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Verset 1. Mais un homme nommé Ananias avec Saphira, sa femme, vendit une propriété, hérita une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ ? S'il n'a pas été vendu, ne te restera-t-il pas ? Et après qu'il a été vendu, les prix n'étaient-ils pas à ta disposition ? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein ? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. » Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur ? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, les trouvèrent morts. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Le deuxième stratagème de Satan, c'est l'hypocrisie et l'égoïsme. L'hypocrisie et l'égoïsme. Pourquoi est-ce que Saphira et Ananias ont fait ça? Mais parce qu'il y a eu, comme on a vu dans le chapitre 4, 31, c'était les frères et sœurs qui avaient des possessions, ils ont vendu ce qu'ils avaient et ils l'ont distribué. Mais attention, l'Évangile ne nous dit pas de faire ça. Ça, c'est à chacun que le Seigneur, il parle. Et chacun, il répond en obéissance au Seigneur, si le Seigneur lui parle. Dieu, il n'est pas contre les richesses. Mais le Seigneur, il parle, s'il parle à quelqu'un, qu'il a des champs, qu'il a des richesses, et il dit, tiens, mes frères et sœurs, il y en a qui ont des besoins, je vends et je distribue toutes ces choses-là. Et alors, si quelqu'un, il avait fait ça, il était bien vu, n'est-ce pas? Mais oui, il a fait quelque chose. Et Ananias et Saphira, ils ont voulu faire la même chose. Pourquoi faire? Parce que pour être bien vu. Pour être bien vu. Et ce qu'ils ont fait justement, Pierre, il a tout de suite découvert, parce qu'il est conduit par le Seigneur. Ils avaient vendu leur terrain, et au lieu de donner tout l'argent, ils ont donné une certaine somme. Mais ils ont dit qu'ils ont vendu le terrain à cette somme-là. Voilà, j'ai vendu le terrain 100 euros, et ces 100 euros, je les donne, je les mets à la disposition des frères et sœurs. Mais le terrain, il avait vendu à 200 euros. Voilà pourquoi Pierre, il est intervenu. Il a dit, pourquoi tu nous dis que tu as vendu ce terrain-là à tel prix ? Tu as menti au Saint-Esprit. Pourquoi as-tu fait ça? Le terrain, c'est toi qui l'as vendu. Tu aurais pu garder tout l'argent et pas venir ici dans l'église parmi tes frères et sœurs et hypocrite, tu t'es élevé et tu as dit que tu as vendu à ce prix et tu le distribues aux frères et sœurs. Pourquoi as-tu fait ça? Tu as menti au Saint-Esprit de Dieu. Tu as menti à Dieu. Et vous savez, il y a le jugement tout de suite. Hein. Tout de suite, ils sont morts. Lui et elle. Parce que déjà avant, ils s'étaient accordés. Hein? Marié, femme, n'est-ce pas? Ils ont vendu quelque chose. Ils se sont mis d'accord. Écoute, chérie, on va à l'église. on va dire qu'on a vendu le terrain à tel prix, hein, et qu'on le donne aux frères et sœurs, comme ça ils vont nous. Ils s'étaient accordés tous les deux. Premièrement, il est passé à Ananias. Il a dit oui, c'est à tel prix. Jugement. Il a appelé sa femme. Est-ce que c'est à ce prix que... Ah oui, 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 on a vendu à ce prix. Ils s'étaient mis d'accord. Jugement. Imaginez-vous, imaginons-nous aujourd'hui, si Dieu, il agirait de la même façon, là, ici, en ce moment. C'est un peu, ça rappelle un peu, hein, que celui qui est sans péché, il jette la première pierre, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Heureusement que Dieu n'agit pas comme ça. Déjà, il crie, si tu existes, Dieu, montre-toi. Heureusement qu'il ne se montre pas. Et ici, la deuxième stratégie, l'hypocrisie et l'égoïsme, hein, c'est cette stratégie, il n'a pas changé aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les églises, pas spécialement ici, hein, mais partout, il y a la paraître, apparaître mais pas être. On désire apparaître aux yeux de frères et sœurs, aux yeux du pasteur, aux yeux du conseil, comme quelqu'un qui se donne à fond pour l'église, mais à eux-mêmes, ils se retirent. Et encore, c'est aujourd'hui encore. Et quelle est la parade? C'est la parade contre cette chose-là, ça, c'est de faire tuer notre égoïsme, notre hypocrisie. Car lorsque nous faisons ça, nous sommes hypocrites envers Dieu, envers nous-mêmes, envers nos frères et sœurs. Et c'est ça que nous devons comprendre. Vous savez, il y a les pronoms personnels français là. Je vous l'ai déjà dit, ces choses-là. Mais si on réfléchit des fois à cela, les pronoms, je crois que c'est... Non, pas les pronoms, c'est adjectif. Hein. Excusez-moi, je suis italien, alors la grammaire française, c'est pas tellement mon fort. Hein. C'est j'ai, tu, il, nous, vous. C'est quoi, pronom ou adjectif? Pronom, voilà, j'ai bien vu, vous voyez. J'ai bien étudié ma grammaire. Et alors, voilà, et nous, en tant que, dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? J'ai, tu, il. Et c'est ça, hein? Je te tue. J'ai, tu, il. Mais lorsqu'on devient chrétien, c'est tout à fait l'envers. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Et le pronom personnel de Christ, c'est « il, tu, je ». Vous comprenez? Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et lorsqu'on veut se faire, on veut s'élever, on veut se montrer, on utilise ce qui fait le monde. Je te tue. On ne pardonne plus aujourd'hui. Aujourd'hui, on tue. C'est moi qui ai la première chose. C'est la première personne. D'abord, moi. Et pas toi. Toi, tu ne représentes rien. Mais si on a Christ, hein, je n'existe plus. Et Paul, il est clair. Je suis mort. C'est Christ qui vit en moi. Et c'est ça que Satan, il utilise des fois. Comme il a dit le frère tout à l'heure, l'amour entre frères et sœurs, il doit être la première chose qui doit diriger une église. On l'a vu dans les études du frère Jocelyn ce matin aussi. Paul, sa pensée, ce n'était pas de se montrer lui-même, mais il dit, voilà, Onésime, et il l'envoie chez Philémon. Il l'envoie là, il a dit, normalement, en tant qu'apôtre, j'aurais dû te commander, mais je te demande une faveur. Et si Onésime, il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. C'est comme si Paul il avait un compte ouvert avec Philémon. Mais oui, c'était son père spirituel. C'est ça que nous devons avoir plus profond de nous-mêmes. L'amour, c'est la première chose qui doit nous diriger. Et l'amour, c'est la stratégie pour mettre un obstacle à Satan. À Satan. Hein? Nous proclamons que Jésus est le centre de notre vie, mais nous nous occupons que de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça, être chrétien, c'est ça. C'est se révéler ce que nous sommes. C'est se révéler ce que nous sommes. Nous nous préoccupons plus de notre propre personne que des personnes qui sont tout autour de nous. Ici, je parle ici de l'Église, là. Il y a des gens qui sont dans les besoins. Et pourtant, ils ne viennent pas vous dire, « Tu sais, je suis dans le besoin, hein. Je n'ai pas à manger. » Ils ne vous le diront pas. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui sont dans les besoins. Voilà pourquoi on a institué cette banque alimentaire. Je vous ai dit, chaque fois que vous allez faire des achats, parce que les achats, vous en faites. Hein. Nous en faisons. Parce que moi aussi je mange. Hein. Nous en faisons. Et lorsqu'on fait les achats, ça ne nous vient pas à l'esprit de dire, tiens, dans mon église, le pasteur m'a dit qu'il y a des gens qui... Et de prendre quelque chose pour les donner. Voilà, avoir la pensée des autres. J'achète pour moi, mais je pense aussi à ceux qui n'ont rien. C'est comme ça que le Seigneur Jésus nous a dit de vivre. Et c'est comme ça que nous devons vivre. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, oui. Mais obéir à Dieu plutôt qu'à moi-même aussi. Obéir à Dieu plutôt qu'à moi-même. C'est ça la deuxième stratégie de Satan. L'hypocrisie et l'égoïsme. Hein? Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Plaire à Dieu plutôt que chercher notre propre intérêt. Car le Seigneur, à nous, en tant que chrétiens, il nous le dit, ne t'occupe pas. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Les autres choses, notre Père, votre Père, il vous le donnera, sûrement. Mais on préfère s'occuper de nous-mêmes que des autres. Voilà sur quoi Satan, il s'acharne. Et pourquoi il fait ça? Pour nous casser. Pour nous casser. Hein? Et il nous a dit, dans Samuel 16, 7, il nous a dit, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Mais l'Éternel, il regarde au cœur. On ne fait pas les choses pour que les gens, ils me voient. Mais il faut voir les choses. C'est Dieu qui regarde le cœur. Et c'est ce qui compte. C'est ça que nous devons faire. Et c'est même jugement, vous savez, Achan, vous en souvenez d'Achan et sa famille? Dieu il a dit, tu vas aller à Jéricho, tu prends, tu dédies tout par interdit. Achan, il a vu de l'or et il l'a caché. Et alors à Dieu, jugement. Achan, est-ce que tu as fait ça? Non, je n'ai pas fait ça. Tu parles, j'ai combattu, on a gagné. Voilà, jugement. Lui et toute sa famille. Pourquoi? Parce qu'il a regardé à lui-même et pas au peuple d'Israël. Qu'est-ce qui est arrivé au peuple d'Israël? Ils ont été combattre la ville d'Aï et ils ont été défaits. Et Josué, il a dit, mais comment, Seigneur, tu me dis d'aller? J'y vais et on va perdre. Mais Dieu, il a dit, mon cher Josué, il y a le péché chez toi. Il y a le péché chez toi. Et lorsqu'il y a le péché, sache-le, Dieu n'intervient pas. C'est ce qu'on dit toujours dans nos réunions de prière. Hein. Avant de demander quoi que ce soit, avant de prier, confessons nos péchés. Sinon, Dieu n'écoute pas. Et Jésus nous l'a dit. Hein, lorsque tu vas au temple pour prier, et tu sais que tu as quelque chose contre quelqu'un, ou quelqu'un il a quelque chose contre toi, ne fais pas d'offrande. Ne prie pas. Pourquoi? Car Dieu ne nous écoute pas. Va, réconcilie-toi, et ensuite, tu viens. C'est ça. C'est ça la stratégie de Satan, et qu'il utilise très souvent. Très souvent. La troisième stratégie de Satan, chapitre 6, et il l'utilise encore aujourd'hui, hein. Je vous l'ai dit, c'est des stratégies. Satan ne change pas. Pourquoi? Parce que c'est des bonnes stratégies. Mais Dieu, il nous donne la solution. Chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmente. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme, de qui on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parnémas, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils le présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. » Ici, le troisième problème, c'est que ils voulaient faire, bien sûr, vous savez, Satan, pour empêcher que nous allons grandir, premièrement, il utilise la force. Ensuite, il utilise aussi de l'intérieur de l'Église, hein, avec Ananias et Saphira. Si les choses ne marchent pas, il y a cette troisième stratégie qu'il utilise. Il veut empêcher la proclamation de l'Évangile. Il y avait les apôtres qui étaient en train de prêcher, d'amener des gens au Seigneur, et à l'intérieur de l'Église, voilà, il y a un problème. Vous connaissez des églises où il n'y a pas de problème? Non, hein? Ici, c'est exactement pareil. Et vous savez, et lorsqu'il y a un problème, tout s'arrête. Ici, de l'intérieur, ils ont été voir les apôtres et dit, mais nous, on est des Grecs, des hellénistes, et il n'y a que les veuves des Hébreux qui sont... il faut faire quelque chose. C'est-à-dire, ils demandaient aux apôtres de s'occuper de ça et laisser de côté la prédication de l'Évangile. Alors, qu'est-ce que c'est que la stratégie de Satan qu'il a utilisée? Et il l'utilise. Il veut détourner l'appel de son Église. Et il voulait que les apôtres, ils arrêtent et qu'ils s'occupent de ces choses-là. Mais ils ont prié le Seigneur et le Seigneur, il leur a dit de choisir d'autres personnes pour qu'ils puissent s'occuper de ça. Et les apôtres, ils continuent à évangéliser, à prêcher l'Évangile et les autres à s'occuper de ces problèmes-là. C'est exactement ce que je vous ai dit quand je suis venu ici, si vous en souvenez bien. Moi, je suis là pour prêcher l'Évangile. S'il y a des choses à faire, je veux être accompagné. Il faut qu'il y ait d'autres frères et sœurs qui s'occupent. Ne me demandez pas d'élever un mur avec des briques et tout ça. Je ne sais pas le faire. Ne me demandez pas de changer une prise. Je ne sais pas le faire. D'ailleurs, des fois, quand je roule en voiture, je me demande, s'il arrive quelque chose, qu'est-ce que je fais? Je ne sais rien. Je ne sais même pas. Je sais les moteurs qui les devant. Hein? Mais sinon, une fois que j'ouvre, je ne sais plus rien. Un peu comme ce qu'il avait dit le beau-père à Moïse, vous vous en souvenez? Il conduisait les presque 2 millions de personnes dans le désert, et lui, il faisait tout seul. Et alors, le beau-père lui a dit à Moïse, « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il a dit. « Appelle d'autres gens qui s'occupent des choses. » Et toi, tu t'occupes seulement à ce que tu dois faire. S'il y a des problèmes difficiles à régler, mais qu'ils viennent te voir. Et toi, tu vas te tourner vers le Seigneur et tu vas apporter la solution. Satan, il fait toujours la même chose. Il veut empêcher, par des dissensions, par des problèmes, d'empêcher la propagation de l'Évangile. Et il le fait encore aujourd'hui. Et nous devons prêter attention à cela. Car la mission de l'Église, c'est d'apporter l'Évangile à tous ceux qui encore ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et pas nous laisser aller à des occupations qui n'apportent rien. L'Église, c'est pour ça. Voilà pourquoi, si nous voulons grandir, hein, il faut suivre ces trois lignes. Premièrement, première stratégie de l'ennemi pour détruire l'Église, on l'a vu, hein, c'est la force qui entraîne la peur. La deuxième stratégie pour stopper l'Église, toujours, hein, c'est l'égoïsme, le mensonge, l'hypocrisie. Et vous savez, la Bible, il ne nous dit pas que des bonnes choses. Les bonnes choses, et comprenez-moi. Hein, la Bible nous dit même les choses que normalement, il ne devrait pas être dans la Bible. Pourquoi? Parce qu'il nous montre les agissements de Satan. Par exemple, en David, grand roi. Et pourtant, la Bible nous dit que Nathan, il lui a dit, « Tu es pécheur, tu es pécheur. » Il nous montre l'agissement de David. Il a écrit tous les psaumes, et qu'est-ce qu'il a fait, David? David, c'était un adultère, c'était un meurtrier. Et clairement, il nous le dit. Job, dans le livre de Job, chapitre 42, les trois amis de Job, ils ont dit des choses qui n'étaient pas conformes à la parole de Dieu. Mais elles y sont, hein. Ils n'ont rien caché. Et Dieu, il nous le dit, il lui dit à Job 42, verset 7, hein, il nous dit, tes amis, ils ont dit des choses qui ne sont pas la vérité, mais concernant. Et donc, je vais exercer mon jugement. Mais ces choses, elles sont dites. Et il y a des gens qui prennent ces choses comme du pain béni. Et pourtant, ce n'est pas la vérité. C'est ça qui est très important dans l'Église. Enlever le mensonge, l'égoïsme, l'hypocrisie et que nous soyons des vrais disciples. Le Seigneur, il nous dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Lorsqu'il faut dire oui, il faut dire oui. Et pas dire non à la place de oui ou vice-versa. Il faut dire la vérité. Car si on a Jésus dans notre cœur, qui est la vérité, qu'est-ce qu'il doit sortir de notre cœur? La vérité. Troisième stratégie pour freiner la croissance de l'Église, pour qu'on ne puisse pas grandir. Et il nous le dit encore une fois, il cherche à nous détourner de notre appel. Quel est l'appel de tous les chrétiens? De prêcher l'Évangile, de témoigner. Mais comment est-ce qu'il fait Satan dans notre propre vie? Tiens, il y a études bibliques, il y a culte. Ah non, je ne vais pas, je vais faire autre chose. Ça, il nous détourne du plan de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que nous devons bien avoir au plus profond de notre cœur. Nous avons été appelés à servir le Seigneur. Et vous savez, hein, Satan, il est constamment autour de nous. Hein. La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion, prêt à nous dévorer. Et il fait tout pour que l'œuvre de Dieu soit cassée, pour que nous nous éloignions de Dieu, pour que nous retournions chez lui. Pourquoi il s'acharne contre l'Église? Parce que nous l'avons quitté. Je vais vous lire quelque chose pour terminer. Quelques-uns peut-être le connaissent, mais je vais vous le lire quand même. De l'acharnement de Satan contre ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, pour les empêcher. Il nous est dit ici que c'était une convention satanique. C'est-à-dire, Satan, il a réuni tous ses démons, tous ses anges. Il les a réunis en assemblée, voilà, un peu comme on fait dans le monde, n'est-ce pas? Hein? Et voilà ce qu'il dit Satan dans son discours à ses anges déchus. Il dit, nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens d'aller à l'église. Nous ne pouvons pas empêcher les chrétiens de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne pouvons même pas les empêcher de faire l'expérience d'une relation avec Jésus-Christ. S'ils réussissent cette relation avec Jésus, notre pouvoir sur eux est brisé. Laissons-les avoir leur style de vie conservateur, mais volons leur temps pour les empêcher d'avoir des relations intimes avec Jésus-Christ. Volons leur le temps pour qu'ils ne puissent pas avoir des relations avec Jésus-Christ. Alors voilà ce que je veux que vous fassiez. Voilà ce qu'il dit. Distrahez-les, empêchez-les de s'emparer de leur sauveur et de maintenir cette relation vitale et quotidienne. Alors les anges disent, comment peut-on faire cela? Voilà. Gardez-les occupés aux choses non essentielles de la vie et inventez des machinations pour occuper leur esprit. Ah oui. Poussez-les à dépenser, 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 emprunter, emprunter, emprunter. Persuadez les femmes d'aller travailler de longues heures et les maris de travailler 6-7 jours par semaine, 12 heures par jour pour pouvoir s'offrir ce qu'ils désirent. Hein? Des fois, il y a beaucoup qui travaillent pour pourvoir à leurs propres besoins, à leurs propres désirs, pas parce que la famille elle n'a pas. Et Satan, il dit poussez. Parce que si on travaille, qu'est-ce qu'il arrive? On ne s'occupe pas de Dieu. On rentre à la maison, je suis fatigué. Je ne vais pas à l'église. J'ai trop travaillé. Empêchez-les de passer du temps avec leurs enfants et leurs familles. Bientôt, leur maison n'offrira plus aucun échappatoire à l'attention de leur travail. Pourquoi la jeunesse aujourd'hui, elle est si... Mais parce que les parents, ils ont laissé de côté ce devoir. On voit des enfants de 10, 12 ans qui sont dehors. Ils restent là jusqu'à minuit, une heure du matin. Pourquoi? Parce que leurs parents, ils ont abandonné leurs parents. Les chrétiens, parce qu'ils parlent pour les chrétiens ici, hein. Et il dit, stimuler de plus en plus leur esprit au point qu'ils ne puissent plus entendre cette douce voix, le Saint-Esprit. Poussez-les à mettre la radio, les cassettes ou les CD quand ils sont au volant, la télévision, vidéo, les CD, leur ordinateur, constamment en marche dans leur maison. Et comme ça, voilà. On pense à autre chose. On ne prie pas. Couvrez les tables basses des magazines et des journaux pour qu'ils soient envahis des nouvelles du monde, 24 heures sur 24, qu'il y ait plein de panneaux publicitaires le long des routes qui attirent quand ils conduisent. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, hein, même sortir dehors pour un chrétien, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a des publicités, n'est-ce pas ? Hein ? Vous avez vu comme moi, hein ? On voit, on a les yeux pour voir, hein, on regarde. Mais pour nous chrétiens, ce n'est pas de regarder parce qu'ils sont devant nous, mais d'arrêter nos regards dessus. Voilà pourquoi il dit de les pousser. Inonder les boîtes aux lettres des courriers non intéressants, catalogues, concours de toutes sortes et toutes sortes de lettres promotionnelles, offrant des produits gratuits et des services publicitaires, offrant des faux espoirs. Comme ça, on ne lit pas la Bible. On regarde tous les prospectus, toutes les publicités. Mettez beaucoup de mannequins maigres et magnifiques sur la première page des magazines pour que les hommes croient que la beauté extérieure est plus importante que la beauté intérieure. Et à ce moment-là, ils seront mécontents de leur femme et cela briserait très vite la famille. Les mariages, aujourd'hui, ils sont brisés à cause de ça. Ils se marient, ça va. Ils voient quelqu'un d'autre. Ah, il est plus joli que ma femme, il est plus beau que mon mari. Voilà. Je pars. Hein? Dans leurs moments de récréation ou de détente, poussez-les à être excessifs, qu'ils reviennent de ces moments complètement épuisés, pas du tout en paix, et pas préparé pour la semaine à venir. Ne le laissez pas aller dans la nature pour méditer les merveilles de Dieu, toujours entouré par le bruit. Et toutes ces choses-là, ils empêchent la communion avec le Seigneur. Alors, voulons-nous grandir? Alors, nous devons trier toutes ces choses-là et le mettre en pratique. Écoutez ce que Dieu nous dit. Pour nous, je vais terminer avec la parole de Michée, chapitre 7, verset 7. Pour nous qui sommes des chrétiens, voilà ce qu'il dit Michée. Et chacun de nous, il doit dire ça. Il dit, pour moi, je regarderai vers l'Éternel. Je mettrai mon espérance dans les dieux de mon salut, et mon Dieu, il m'exaucera. Et nous pourrons rester dans la grâce de Dieu et nous pouvons ainsi être victorieux de cet ennemi qui désire nous empêcher d'être des instruments entre les mains de Dieu. Donc, la Bible nous donne les moyens de combattre cet ennemi acharné qui est tout autour de nous. Alors, écoutons ce que Dieu dit. Et nous en sortirons de plus en plus vainqueurs. Que Dieu nous aide dans toutes ces choses-là. Amen. Amen.